l'antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 22h49, vous êtes bien sur Europe 1 et c'est votre libre antenne en direct jusqu'à 1h du matin, chers amis. Donc n'hésitez pas, vous pouvez joindre Florian directement au 3921 si l'envie vous prend d'échanger ce soir sur sur l'une des problématiques qui vous pèse en ce moment. Nous sommes là pour vous écouter. Nous accueillons Pierre au 3921. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, merci de nous appeler. Comment
oui,
allez-vous?
Je vous remercie moi aussi.
Comment allez-vous, Pierre?
Et je vais comme un homme qui est malade de son enfance depuis toujours.
Oui.
Donc, et ce soir, j'aurais voulu parler du pardon.
Oui.
Et de la haine aussi que j'avais en moi, qui était insoutenable à vivre avec. Et qui m'a conduit à faire une démarche de pardon pour pouvoir être libéré de cette haine qui me bouffait littéralement la vie. Voilà.
D'accord. Alors, avant que nous entamions, Pierre, est-ce que vous avez moyen de vous éloigner? Il y a quelque chose qui comme une interférence dans votre téléphone. Là, ça a l'air d'aller mieux.
Oui, ça va mieux là?
Voilà, ça va beaucoup mieux. Ah, ça revient.
D'accord.
Bon, on va voir. Vous l'entendez, cette interférence, ou pas?
Non, mais là, si vous dites que ça va mieux, c'est que je me suis orienté d'une manière différente.
D'accord. Alors, en fait, ça démarre quand, cette histoire? En fait, à partir de votre naissance, je suppose.
Oui. J'ai été un enfant qui suis né à l'issue de la guerre d'Algérie.
Oui.
Je suis né en 1962 et je suis le fruit d'une union que moi-même je connais ni les tenants ni les aboutissants. Et après une enquête que j'ai pu faire, j'ai compris que ma mère avait dû être abusée par un soldat du rang pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie.
D'accord.
Et que comme... c'était très mal vu pour une fille algérienne d'avoir eu des rapports comme ça pendant la guerre d'Algérie, qu'elle ne pouvait pas, elle a été répudiée par sa famille, elle ne pouvait pas mettre au monde cet enfant en Algérie parce qu'elle se mettait elle-même en danger.
Oui.
Et moi avec. Donc elle est venue me mettre au monde à Marseille. Et après m'avoir mise au monde, elle m'a laissé à l'assistance publique. Et elle est retournée, elle, en Algérie. Et je n'ai jamais eu de ses nouvelles jusqu'à l'âge de mes 24 ans. L'âge où c'est moi qui avais fait des démarches pour la retrouver, qui a réussi à la retrouver par l'intermédiaire du consulat algérien.
D'accord. Elle vous avait... Elle vous avait reconnu, en tout cas vous étiez né sous X, ou elle avait laissé
non,
quand même dans votre dossier.
Elle m'a reconnu, je porte mon nom et son nom de famille à elle.
D'accord.
Voilà. Et seulement je porte un prénom français parce qu'à l'époque, moi je ne le savais pas, je l'ai appris après, lorsqu'une femme accouchait dans ces conditions, on obligeait la femme qui laissait l'enfant à l'assistance publique de lui donner un prénom français, pour franciser le nom.
D'accord.
Pour franciser le nom, pour que... Voilà. C'est pour ça que je m'appelle Pierre. Mais mon nom de famille est un nom arabe.
D'accord.
Voilà.
Donc, elle vous met au monde, à l'époque, dans quelle région elle vous tenait?
Moi, je suis né à Marseille.
D'accord. Donc, voilà. vous dépendez tout de suite, dès que vous naissez, de l'aide sociale à l'enfance de Marseille? Donc comment ça se passe pour vous à cette époque? Vous êtes placé directement?
Oui, à cette époque-là, je n'ai pas de souvenirs antérieurs à mes 5 ans.
Oui.
J'ai gardé des papiers, mais je n'ai pas de souvenirs. Et en ce temps-là, on plaçait les enfants, dans les années 60, dans les fermes. C'était coutumier de faire ça. Si les fermes étaient demandeuses d'enfants de l'assistance publique, et bien souvent, même que l'école était obligatoire, ces enfants-là, ils servaient de petites mains de la ferme pour accomplir des petites tâches au quotidien. Et bien évidemment que, voilà, alors c'était un petit peu la loterie nationale et moi j'ai eu la malchance de tomber chez des personnes qui m'ont traité d'une manière que j'ai beaucoup souffert dans cette ferme-là. Et j'ai vécu une enfance traumatisante au point de nourrir en moi une haine incroyable envers ces gens-là, alors que de ma nature profonde, je me vivais comme une personne gentille, prête à rendre service, aimante, et malheureusement, à ma personne propre, venait se confronter cette haine et qui m'empêchait de vivre.
En fait, ce que vous voulez dire, c'est que les fermiers chez qui vous êtes placés, malgré le fait, et vous avez raison de souligner que votre nature était plutôt une nature douce, à être gentil, puisque on l'a souvent évoqué ici sur cette antenne, on est à peu près avec un tiers déterminé de cette nature, et vous êtes né avec un bon caractère, avec une sensibilité. Une grande sensibilité et finalement vous vous êtes heurté à une famille accueillante, des plus méchantes avec vous, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'amour, pas de gestes affectueux, beaucoup de mépris, parce qu'ils avaient, eux, deux enfants qui étaient les leurs. Et nous, nous étions quatre de l'assistance publique placés chez eux.
Quatre ? Ah oui, d'accord.
Oui. Et on voyait toujours la différence. Nous n'avions rien. Nous étions beaucoup privés de nourriture. J'ai beaucoup volé de la nourriture en tant qu'enfant.
Oui.
Et c'est très... Voilà, quand j'y pense, je n'ai pas pensé à ces choses-là.
Non, mais ces parents adoptifs qui ne portent que le nom de parents adoptifs, on peut penser que, d'après ce que vous nous racontez, avec quatre enfants placés dans ces conditions-là, vous étiez plus considérés comme des grouillots de service, comme des petites mains, et que vous étiez sans doute destinés à des travaux de la ferme et que ça faisait une main-d'œuvre gratuite, en fait.
Ce n'était que ça.
Que ça.
Le chef de famille s'adressait à nous qu'avec des regards qu'il fallait que l'on comprenne ou des gestes vifs. Bon, pour donner un exemple bête, c'est par exemple, on mettait les couverts pour la table, il manquait quelque chose sur la table, il nous faisait simplement signe du doigt en fronçant le regard, pour nous faire comprendre qu'il manquait quelque chose sur la table. Alors, on cherchait, des fois, on ne savait pas quoi.
Oui.
C'était des fois la moutarde ou des conneries comme ça. Et puis, il fallait que ça vienne, parce que si ça ne venait pas, il disait « moutarde ». Alors là, on avait compris. Mais bon, c'est un exemple comme ça. Voilà, bon, je ne veux pas tout rentrer dans le détail, parce qu'il faudrait des heures pour raconter toutes les brimades que nous avions, toutes les punitions...
On va continuer à l'évoquer avec vous, Pierre. On va faire quelques essais pour que la liaison soit un peu meilleure. Vous restez avec moi le temps de l'info sur Europe 1 et puis on se retrouve dans quelques instants, d'accord ?
Oui.
À tout de suite.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
23h passées de 4 minutes, vous êtes sur la radio bleue Europe 1, votre radio à vous, et c'est votre espace de parole de 22h30 à 1h du matin tous les soirs, chers amis. Donc soyez les bienvenus, et si vous regagnez votre domicile, que vous êtes en voiture, puisque désormais nous pouvons enfin reconduire un peu, eh bien faites bien attention, soyez patients et soyez concentrés sur la route, car vous savez que c'est reparti. Hein. Certains d'entre vous peuvent avoir des soucis sur la route, parce que j'ai cru remarquer qu'avec ce confinement et ce déconfinement, certains pensaient que le code de la route n'était plus homologué et qu'on s'attendait peut-être à un nouveau code de la route. Donc j'ai vu beaucoup d'accrochages, notamment avec des motos. Donc vraiment, soyez prudents, soyez prudents. On est toujours avec Pierre, avec qui nous évoquons cette histoire, l'histoire de Pierre, né d'une maman algérienne abusée par un soldat français durant la guerre d'Algérie. Cette maman a accouché donc à Marseille, et à l'époque, tous ses enfants qui naissaient sous X, en tout cas qui étaient confiés à l'assistance publique, puisque c'était comme ça qu'on l'appelait à l'époque, eh bien on les plaçait comme garçons de ferme, et ces enfants se retrouvaient plutôt comme Pierre, pour la plupart d'entre eux, considérés comme des petites mains aidant au champ, avec souvent des familles les traitant mal. C'est ce qui vous est arrivé, Pierre. Vous évoquez l'attitude du chef de famille à qui vous deviez obéir au regard. Est-ce qu'il était violent avec vous, ce chef de famille ?
Il y avait une violence dans les punitions. On était punis pour des choses qu'on ne comprenait pas. Et les punitions, elles étaient... C'était des punitions physiques. Souvent, on nous faisait mettre à genoux, ne pas plier les genoux, et les mains sur la tête. Et ne pas bouger. Jusqu'à ce qu'ils nous disent « Tu te lèveras que quand ?» Je te le dirai. Alors, on ne bougeait pas. Et lorsqu'il venait nous corriger, son truc, c'était souvent de nous tirer les oreilles. Mmh. Alors moi, j'avais un décollement des oreilles. Et je me suis rendu compte que, mais plus tard, l'hiver, derrière les oreilles, j'avais froid et j'avais des coulures de... comme pas du sang, mais de l'eau, mais je comprenais, ça me faisait comme des croûtes. J'ai jamais compris pourquoi. Mais c'est plus tard, en réfléchissant, je me disais, mais ça vient parce qu'on te tirait les oreilles pour te punir. Et tu te rendais pas compte qu'on te les décollait, les oreilles. Alors, pas les arracher, mais bon, je dis que quand on arrive à faire ça sur un gosse, pour le punir,
oui.
Bon, c'est grave, quoi. Enfin, c'est grave. Ouais, c'est grave. Des punitions de ce style-là. Alors, et elle, la femme qui nous gardait, elle, son truc, c'était le martinet. À ça, le martinet, ça y allait pour un oui et pour un non. Et c'était quasiment du quotidien, quoi. C'était vraiment, on ne savait pas. Le jour où on n'était pas puni, on trouvait ça bizarre. On se disait, c'est pas possible, aujourd'hui on n'a pas été puni. Qu'est-ce qui se passe, quoi?
Oui.
Pas normal. À ce point-là. Moi, j'ai passé toute mon enfance comme ça, quoi.
Avec la peur du martinet.
Et un jour, j'étais un peu plus âgé, je devais avoir 14 ans. Mais de temps en temps, j'essayais de me rebeller, mais bon, je faisais quand même attention. Mais un jour, elle est venue, ça m'avait marqué. Elle est venue avec un bâton qui était plus gros que d'habitude. Et moi, dans ma tête d'enfant, je me suis dit, si elle me met un coup sur la tête, elle va me tuer, cette femme. C'est ce que je me suis dit. Alors, je lui ai dit, mais si c'est pour faire ça, je lui ai répondu, t'as qu'à prendre le fusil, tu sais où il est, t'as qu'à nous tuer. Elle m'a regardé, elle m'a dit, quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Je vais le dire à ton père ce soir quand il va venir. Et alors, moi, j'avais la peur de ma vie, parce que elle avait compris que c'est moi qui voulais aller chercher le fusil pour la tuer à elle. Alors là, je me suis dit, mon petit Pierre, je crois que tu vis tes dernières heures.
Oui.
Ah oui, carrément. C'est, dans ma tête, je faisais ce cauchemar-là, ce film-là.
Mmh.
Il est rentré, rien. J'ai dit, je vais être puni, elle va le dire, il va se passer quelque chose. Il s'était rien passé du tout. Je suis resté bouche bée. Parce que la fois où je m'attendais à ce que je reçoive une punition, mais incroyable, comme jamais de ma vie j'allais recevoir, j'ai rien reçu. Après coup, j'ai réfléchi, mais longtemps après. Et je me suis dit que peut-être, ils avaient, eux, eu plus peur que moi. Parce qu'ils se sont dit, attends de savoir ce gosse s'il est capable de faire ça. De prendre le fusil, parce qu'ils avaient un fusil de chasse qui était caché dans un cagibi,
oui.
Et de le charger en cachette et de venir nous tuer. Après coup, des années plus tard, j'ai trouvé bizarre que cette fois-là, je n'avais pas été puni du tout.
Et vous aviez quel âge à l'époque?
Là, je devais déjà avoir 14 ans quand
14
ça s'est passé,
ans,
cette histoire-là.
D'accord, d'accord.
Je commençais déjà à être revanchard. Et je sentais que si j'allais rester chez eux, ça allait mal tourner.
Vous êtes
ça
resté...
allait mal tourner, beaucoup mal tourner.
Vous m'avez dit qu'elle vous disait quand ton père va rentrer, vous l'appeliez maman et lui papa, en fait, comment vous les appeliez?
Oui, on les appelait maman et papa.
D'accord.
Voilà.
Mais dans vos têtes d'enfant, comment vous perceviez cela? Vous saviez?
Dans ma tête, c'était quand même maman et papa parce que j'avais un besoin
de
repère affectif parental qui était tellement fort en
ouais,
moi
ouais, ouais, bien sûr.
Que c'était papa et maman.
C'est voilà. Normal, c'est normal.
Moi, personnellement, je le vivais comme ça. Et bon, et ce qui m'a beaucoup chagriné, c'est surtout que à cause de la dureté de cette éducation que j'ai reçue, j'ai pas pu bénéficier d'une scolarité. Alors que je savais que mon salut pouvait passer par les
oui,
études.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Je savais que ça. Dans ma tête, je me suis dit, ton salut dans la société, c'est les études.
Et il n'y avait
si
aucun suivi
pas, pardon.
Il n'y avait aucun suivi de l'assistance publique à ce niveau-là, parce que l'école était obligatoire déjà à l'époque,
oui.
Non
oui, l'école était obligatoire, mais il n'y avait aucun suivi au niveau des devoirs. Ils s'en foutaient complètement. Et la maîtresse d'école qui savait que nous étions des enfants placés, parce que c'était une toute petite école de village.
Oui.
On était quoi? On était une dizaine ou douzaine dans la classe, on n'était pas plus. Bon, c'était pas... Voilà, il n'y avait pas de... La maîtresse n'appuyait pas non plus sur le champignon pour que ça se passe autrement, quoi. Et voilà, et c'est ça qui m'a beaucoup entravé dans mon existence, c'est de ne pas avoir pu rattraper le coup par les études. Et c'est ça qui m'a... Encore la dureté de l'éducation, on éduquait les gosses un peu comme ça, j'arrivais presque à l'admettre,
oui.
Bien qu'il n'y avait pas d'amour. Mais bon, mais c'est de dire, en plus, on te faisait passer à la trappe ta seule bouée de sauvetage qui aurait pu être les études.
Oui, oui. Vous m'avez parlé
et
de...
Allez-y. J'avais en moi cette capacité à pouvoir faire un parcours scolaire. J'étais pas le premier de la classe parce que je m'en tirais. Mais lorsque je suis rentré en sixième, on nous avait fait faire un devoir en mathématiques et j'avais eu la première note de la classe. J'avais été noté un 16 sur 20. Même moi, je n'en revenais pas.
Ouais.
Je me suis dit, comment j'ai fait pour avoir un 16 sur 20? Ce n'est pas possible. Je rêve. Et au fil de l'année scolaire, toutes mes notes ont dégringolé, quoi. j'arrivais pas à suivre. Mais il y avait quelque chose qui me disait que le niveau, je pouvais l'avoir. Mais voilà, c'était trop compliqué, je pouvais pas. Alors et j'ai été beaucoup frustré à cause de ça.
Oui, mais je me doute. Vous m'avez parlé de haine au début, de pardon, de vengeance. En fait, combien de temps vous êtes resté chez ces gens-là? Est-ce que vous êtes parti
jusqu'à l'âge des 17 ans.
17 ans, d'accord. Ça correspondait à quoi, 17 ans. Ça correspondait à quoi? À une volonté de votre part de quitter ces gens-là?
À l'apprentissage. Il y avait un ressenti chez eux qu'ils pensaient que ça allait mal tourner, et moi aussi. Et après le brevet des collèges, plutôt que de me faire aller vers un baccalauréat, ce qui j'aurais dû rester chez eux pour faire les études par rapport au baccalauréat, ils ont préféré m'envoyer dans une filière d'apprentissage, dans un centre où c'est qu'ils se débarrassaient de moi, quoi.
On va marquer une nouvelle pause, si vous le voulez bien, Pierre.
Oui, oui.
Puis on va continuer à évoquer la suite de cette histoire. À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h16, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à nous appeler au 3921. Pierre, 17 ans, donc vous partez en apprentissage. À la place d'aller dans la filière traditionnelle et de passer votre bac. Ça aussi, à 17 ans, ça a été un coup dur de réaliser qu'on vous privait finalement de faire des études.
Ces deux choses-là confondues, ça a été la maltraitance avec leur de ne pas avoir eu un parcours scolaire que j'aurais dû avoir, parce que je le méritais, parce que j'avais réussi mon brevet des collèges à l'époque, et que j'étais désireux de cela, de continuer. Et ça nourrit en moi une haine incroyable envers ces gens-là. Parce que, pour moi, ils m'avaient volé mon enfance, mon adolescence, et par cet aval, toute ma vie, quelque part.
Oui, oui.
Et j'étais dans un mal-être incroyable. J'ai cru que je pouvais me raccrocher aux branches en essayant de retrouver ma mère. J'ai dit, ça va peut-être t'aider à quelque chose. J'ai fait le parcours de retrouver ma mère, mais la rencontre avec ma mère s'est très mal passée.
C'est-à-dire, vous êtes retourné en Algérie?
Oui, oui, j'ai pour la voir.
Oui.
Et cette rencontre s'est très, très mal passée. Lorsque je suis arrivé en Algérie, que tout avait été organisé pour que je puisse aller la voir et la rencontrer.
Qui avait organisé tout cela?
Le consulat et puis un oncle en Algérie qui s'était chargé de ça.
D'accord.
Et qui habitait dans le village où ma mère, soi-disant, habitait. Mais elle n'habitait pas, elle était à la rue, en fait. Et lorsque je suis arrivé dans cette maison de mon oncle, je ne vais pas tout raconter, mais je vais être bref. Lorsqu'ils ont été rechercher ma mère, puisqu'ils savaient où elle était, ils m'ont dit, bon, ben voilà, ne bouge pas, on va chercher ta mère. Ils ont été la chercher dans la rue. Et de cette maison, j'entendais monter de la rue des cris, mais affolants, incroyables. On aurait dit comme on égorgeait quelqu'un dans la rue. Je me disais, mais c'est pas ma mère qui soit en train de crier comme ça, c'est pas possible. Puis je savais bien que c'était ma mère. Mais en même temps, je ne voulais pas le croire. Et puis lorsque cette femme a passé la porte de la maison de mon oncle, qui l'ont mise dans une pièce, elle s'est accroupie au coin de la pièce, est rentrée dans un mutisme sans être capable de me dire un mot. Elle me dit, voilà ta mère, va lui parler. J'ai été pour essayer de lui parler, je lui ai dit, voilà, c'est moi, c'est Pierre, je suis ton fils, je suis venu te voir. Rien, rien. Je bouillais, moi, j'étais dans un dégoût, pas sortir, entendre le son de sa voix. Et elle m'a dit une phrase, mais pas deux, une. Qui va piano, va sano. C'est tout ce que j'ai entendu de ma mère, de toute ma vie.
Ah
je
n'ai
jamais rien entendu d'autre.
Qui va piano, va sano. Ça veut dire quoi?
Et qui va doucement, va loin.
D'accord.
Voilà
que vous avez interprété, que vous avez interprété depuis comment?
Je l'ai interprété en me disant que j'avais loupé ma rencontre avec ma mère, parce que peut-être c'était une façon à elle de me dire qu'elle n'était pas prête de m'accueillir dans son cœur. Mmh. Que pour elle, c'était un choc trop violent à assumer.
Oui.
Voilà comment je l'ai interprété.
Et oui. Vous n'avez jamais essayé d'y aller piano, ensuite de progressivement y retourner?
J'ai essayé, mais j'ai compris que ma mère ne... J'ai demandé à ma mère de venir avec moi en France, que j'allais la prendre avec moi.
Oui.
Je lui ai dit, t'as rien à faire ici, si tu veux, tu viens avec moi. Et comme mon oncle, c'était ce qu'ils appellent là-bas chez eux le caïd, c'est-à-dire le préfet de toute la région, de toute la wilaya, il avait autorité sur tout ce qui était sanitaire et tout ça. Il m'a dit, si ta mère veut aller en France, moi, j'affrète un avion, je la fais aller à Marseille tout de suite. Il n'y a pas de problème.
D'accord.
Elle n'a pas voulu venir avec moi. Donc, j'ai voulu tourner la page. Mmh. Voilà. Et j'ai tourné la page.
Il y a quelque chose dans votre histoire, en tout cas, cela éveille plusieurs questions chez moi. Notamment, l'attitude de cette mère, l'attitude de ses parents là, adoptifs, qui ne vous respectent pas, en fait. Ensuite, cette mère qui refuse de vous parler, en tout cas, qui vous dit qu'il faut aller doucement, mais qui se refuse, finalement, au moindre échange avec vous. Comment est-ce que vous avez porté tout cela? Est-ce que, longtemps, vous avez eu cette image de petit garçon de la honte, vous voyez, de quelque chose de... Quelque chose qui colle la honte, en fait, qui fait on m'a jamais voulu là, partout où j'étais, on n'a pas été gentil avec moi, on m'a rejeté, finalement. On a saccagé un bout de ma vie, hein, en fait, hein, parce que vous étiez sans doute promis au moins à des études classiques qu'on vous a refusées. Il y a tout un tas de choses qui s'accumulent dans votre vie pour que vous puissiez avoir cette image-là qui vous pèse.
Je me suis senti... À cause de ce rejet, je me suis senti à ma place nulle part.
Oui.
Le cul assis entre deux chaises, même pas. Je me suis ni senti algérien, me suis ni senti français, bien que j'avais une grande vision de la France. Je me suis jamais senti... Je ne saurais pas dire comment, mais j'étais pas à ma place nulle part et je vivais dans un malheur intérieur, tristesse intérieure, d'une angoisse intérieure au quotidien. Et en plus, parce que je pataugeais dans la boue, je nourrissais en moi cette haine qui me poursuivait, parce que je me disais, c'est à cause d'eux, et je vivais ça comme s'il fallait que je doive régler un compte avec eux, et qui aurait tourné au drame, et que je ne voulais pas, mais j'étais animé par cette tension-là en moi.
Ouais, cette haine, elle vous a empoisonné combien de temps,
Elle m'a empoisonné assez longtemps, je dirais même jusqu'à l'âge où c'est que j'ai eu mon accident, où j'ai dit qu'il faut que je tourne une page définitive et qu'il faut que je me reconstruise et que je ne peux pas me reconstruire sans travailler sur le pardon. Mmh. Parce que je suis une personne qui a un cœur énorme et je ne le voyais pas, ce cœur. Je ne le voyais pas.
Ouais, alors que il était enfoui sous une tonne de...
Capable de donner... J'ai beaucoup donné à des gens, du temps, de l'amour, de tout. Mais il y a quelque chose qui clochait.
Justement, j'allais vous demander, en fait, quel homme cela faisait de vous, tout cela ? Est-ce que vous étiez capable d'aimer, d'amour ? Est-ce que vous avez pu vous marier, faire des enfants ? Est-ce que vous avez tenté cela ?
J'étais capable d'aimer, oui et non. J'étais capable d'aimer par mon cœur, mais j'étais incapable d'aimer par ma personne qui avait été meurtrie. Et j'avais un gros problème relationnel avec la gente féminine. Je le sentais dans ma façon de concevoir la femme, dans mon esprit.
C'est-à-dire
Je la voyais comme, pas comme une ennemie, mais...
Potentiellement pouvant vous faire du mal.
Oui, comme quelqu'un avec qui j'avais un compte à régler.
Oui, oui.
Voilà. Et le malheur, c'est que ça pouvait tomber sur n'importe quelle personne, alors que ces personnes n'y étaient pour rien dans mon malheur, en fait. Voilà. Alors, elle devenait quelque part le bouc émissaire de mon histoire.
Oui.
Et ça perturbait forcément mon rapport aux femmes. Mais oui. J'en avais conscience, quand même. Je faisais quand même attention.
Et est-ce que vous avez réussi à construire vous avez réussi à construire tout de même un mariage, des enfants ou
Non, ça a été très compliqué. J'ai eu une personne avec qui j'ai eu une fille. Bon, mais je me suis trompé dans la façon où j'ai voulu à tout prix connaître ce que c'était que la vie de couple en pensant que ça pouvait me réparer.
Oui.
Donc, on va dire que j'étais aveuglé par ça. Et
c'était pas le remède idéal. Pas,
voilà, le choix n'a pas été concluant à cause de ça. La personne que j'ai choisie n'a rien à voir avec ça. C'est pas elle qui est fautive.
Oui, c'est tout ce qui vous empoisonnait. Et sans doute, voilà. Comme vous l'avez souligné, tant que vous n'aviez pas pardonné, ou en tout cas, tant que vous n'étiez pas délesté de toute cette colère, de tout ça.
Je sentais quand ça allait mal, souvent quand j'avais une pression en moi forte, ça se traduisait toujours par des maux de tête incroyables. Et là, je savais que j'étais pas dans de bonnes dispositions pour rien. Les maux de tête qui me poursuivaient. Et aussi, je faisais des fois des cauchemars la nuit. J'ai dit, non, je peux pas continuer à vivre comme ça.
On va marquer une nouvelle pause, Pierre, si vous le voulez bien. Puis on va continuer à échanger ensemble. À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 23h30, vous êtes sur Europe et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à composer le 39-21. Florian vous attend en studio pour échanger avec vous. Et puis peut-être aurons-nous le plaisir de parler ensemble ce soir, chers amis. Nous sommes avec Pierre. Pierre qui évoque cette enfance malmenée et puis l'impact que cela a eu sur ses relations, notamment ses relations avec les femmes. Vous m'avez dit, Pierre, avoir eu un accident qui semble avoir marqué un moment fort de votre vie où vous avez été capable de remettre cette chose en question pour entamer le pardon.
Oui, cet accident, j'ai failli perdre la vie. Et ça m'a fait tourner une page de ma vie. J'ai été brûlé au troisième degré.
Oui.
Sur 65% de ma surface corporelle. Et j'ai fait 2 mois de coma et j'ai fait 1 an de rééducation dans une maison pour les grands brûlés. Et
que vous est-il arrivé, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez brûlé si gravement ?
J'ai été électrisé par un arc électrique. de 20 000 volts.
D'accord. Un arc électrique étant... C'est quoi un arc électrique?
C'est-à-dire c'est que j'ai servi de conducteur
oui.
à du 20 000 volts. Le courant m'a traversé.
Mais vous avez traversé...
De la haute tension.
De la haute tension.
Une ligne haute tension.
D'accord. Vous travailliez à l'époque sur les lignes de haute tension?
Non, je ne travaillais pas sur une ligne de haute tension. J'étais en prospection pour un chantier
oui.
personnel que je faisais. Et comme j'étais dans une simple prospection, je n'ai pas eu gain de cause au niveau des assurances. Mais ça, bon, c'est un autre problème, je m'en
oui,
fous.
Oui. En tout cas, vous avez touché un câble et vous avez servi de conducteur à 20 000 volts.
Je ne l'ai pas touché parce que je serais mort. J'ai été...
Ah oui, carrément.
Oui, le 20 000 volts, si vous le touchez, vous mourrez.
Ah oui, d'accord.
Non, non. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma visite qui a fait que... Voilà. Et c'est moi qui ai pris le courant.
Mmh. Donc brûlé à 65% au troisième degré.
Ouais, le torse est brûlé et greffé.
D'accord.
J'ai été greffé.
2 mois de coma.
Oui, j'ai fait 2 mois de coma. Oui, mmh. J'étais à Toulouse, là, au service des grands brûlés.
Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça change à partir de ce moment-là En fait, est-ce que c'est la vie va encore de moi? C'est ce que vous vous dites à ce moment-là pour pouvoir avoir la force de commencer à entamer le pardon?
Non, je me dis pas ça. Je me dis que je vais me réenfanter moi-même au monde. Voilà ce que je me dis.
Une renaissance.
Le Pierre qui était ne peut plus être. Déjà parce que sur le plan physique, c'était une autre personne. J'étais devenu une autre personne à cause de cet accident. Et j'ai compris que j'allais me retrouver dans un isolement incroyable, une solitude encore plus accrue à cause de cet accident. Et je voulais pas finir mes jours dans la solitude et dans la haine. Et alors, j'ai dit là, pour ce qui te reste à vivre, essaye de faire un parcours pour le pardon, pour pardonner. Parce que j'avais cette capacité-là en moi. Je sais pardonner. Je pardonne facilement, mais ça, j'arrivais pas à le pardonner.
Et parce que c'était lourd, c'était énorme, ça.
Alors, j'ai fait un parcours sur moi-même, un parcours philosophique et spirituel, pour trouver le chemin du pardon. Et je l'ai trouvé.
Ce parcours,
et j'ai réussi à pardonner.
Ce parcours philosophique et spirituel, il est à base de quoi, Pierre, à la base?
Je l'ai fondé sur les enseignements des Écritures, des Évangiles.
D'accord.
Et j'ai beaucoup médité cet enseignement-là. D'autres aussi, je ne me suis pas arrêté, mais bon, c'est celui qui m'a le plus convaincu
mmh.
et qui m'a le plus touché dans mon âme profonde,
mmh.
et dans mon cœur.
Est-ce que cela s'est traduit par un acte de pardon? Est-ce que vous avez pu prononcer ce pardon? Est-ce que c'était important? Ou peut-être pas, hein, finalement, mais est-ce que vous deviez, dans ce chemin-là, aller dire à ce père, à cette mère adoptive qui vous avait tellement maltraité, qui avait tellement impacté votre vie, hein, finalement. Est-ce qu'il vous fallait leur dire ou est-ce que ça n'était qu'un détail, finalement, dans ce cheminement?
Non, c'était pas un détail, c'était essentiel.
C'était essentiel, d'accord.
Et je me sentais à la hauteur de pouvoir faire la démarche. Mais j'étais pas certain que l'on m'ouvre la porte.
Oui.
Pour qu'ils puissent entendre ce pardon. Puis j'ai appris qu'ils sont décédés. Et je sais, moi, personnellement, que si un jour je peux aller me recueillir sur leur tombe, je leur dirai sur leur tombe que je les ai pardonner, que je les pardonne et que je les aime pour ce qu'ils sont. Voilà. Et j'irai mettre des fleurs sur leur tombe. Et je suis dégagé et heureux
oui.
d'avoir pu arriver à ce pardon.
Merci mille fois, Pierre, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1.
Voilà.
Je trouve toujours magnifique, formidable, lorsqu'on évoque cette notion du pardon si compliquée, si difficile à construire, à réaliser, parce que le pardon, c'est vraiment quelque chose de particulier.
Et, j'ai mis 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis dessus.
Mmh.
Ça n'a pas pris un jour. Ça ne m'est pas tombé comme ça, comme un cheveu dans la soupe.
Ouais.
Mais je voulais que ce soit un vrai pardon. C'est pour ça que ça a pris du temps. Mais je sais que c'est un vrai pardon. Voilà. Pas un pardon où c'est que lorsqu'on se retrouve, on se rechamaille en se disant « Ah ben, tu avais dit que tu avais pardonné, alors pourquoi tu me ressors ça ?»
Oui, oui.
Voilà.
Maintenant, c'est derrière vous.
Oui. Merci de m'avoir écouté à l'antenne.
Merci à vous, Pierre. Merci beaucoup.
Bonne continuation.
Portez-vous bien, Pierre.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Yeah.